Radio Kapi.
Manifestation anti-MONUSCO dans le Grand Nord du Nord Kivu. L'évêque du diocèse Beni Butembo demande l'intervention urgente des dirigeants congolais pour le retour de la paix dans cette région. Justement, le gouvernement congolais annonce des actions concrètes pour éradiquer l'insécurité dans l'est du pays. C'est ce qu'a dit le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Gilbert Kankonde, notre invité ce matin. Et bientôt la reprise des travaux de réhabilitation du pont route Rai-Lualaba jeté sur le fleuve Congo à Kongolo dans le Tanganyika. Annonce faite par la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, SNCC. Ces travaux ont été suspendus depuis 10 mois, faute de moyens, explique la SNCC. Madame, Messieurs, bonjour. L'évêque du diocèse Beni Butembo interpelle les dirigeants congolais à s'impliquer urgemment en vue de la reconstruction de la paix dans le Grand Nord du Nord Kivu. Monseigneur Sikou Lipaluku Melchisedek a lancé ce message hier lors d'une messe qu'il a dite à Butembo. D'après lui, la miséricorde n'est pas seulement le pardon, mais également la compassion qui saisit la personne au plus profond de son être devant toutes sortes de misères. Monseigneur Sikou Lipaluku Melchisedek, dans cet extrait de son homélie choisi par Alicia Kapisa.
Dénonce toutes les structures nationales et internationales qui manipulent certains acteurs politiques et certains groupes dits de pression pour rendre cette région ingouvernable. Continuons à lutter par le moyen pacifique pour que cesse cette situation dramatique que nous subissons depuis 7 ans. Par des moyens reconnus par la Constitution, éveillons la conscience de tous les Congolais afin qu'ils sortent de leur léthargie et interpellons tous les dirigeants de la base au sommet de l'État afin qu'ils prennent des mesures urgentes et adéquates pour mettre fin aux souffrances insupportables d'une population abandonnée, sinon sacrifiée, et nul ne sait pour quel intérêt.
Rappelons qu'au cours de cette messe, l'ordinaire du lieu a appelé les uns et les autres à s'approprier le message du comité permanent de la CENCO intitulé, je cite, « Arrêtez de tuer vos frères, le sang de ton frère crie vers moi du sol », fin de citation. Restons à Butembo. Une semaine après le début des manifestations anti-MONUSCO, initiées par certains groupes de pression, une controverse règne actuellement autour de la levée de la mesure des 10 jours sans activité. Dans une déclaration à la presse samedi, certaines associations et organisations qui ont décrété ces journées villes mortes annoncent indirectement la reprise normale des activités aujourd'hui 12 avril, tout en annonçant une série d'autres actions pour, souligne-t-elle, exiger le départ de la MONUSCO. L'autorité urbaine, elle, invite toute la population à vaquer librement à ses occupations à partir d'aujourd'hui. Grace Hamzati nous en dit plus.
Sans être clair et précis sur la reprise normale des activités ce lundi, les communicateurs des associations et mouvements citoyens a fixé l'opinion sur des nouvelles actions à entreprendre afin de poursuivre la lutte pour la paix à Beni et à Ituri. Parfait Mouhani a annoncé dès ce lundi les débuts de la campagne de désobéissance fiscale. Il a aussi indiqué qu'il y aura désormais toutes les semaines jeudi sans activité et bien d'autres actions citoyennes. En revanche, d'autres structures, notamment les mouvements anti-gang et Lucha, appellent elles clairement aux journées villes mortes qui doivent se poursuivre jusqu'au 15 avril. Pour sa part, le maire de la ville de Butembo appelle toute la population à reprendre ses activités ainsi que les écoles à rouvrir leurs portes ce lundi. Sylvain Kanyamanda met ainsi en garde tous ceux qui troubleraient l'ordre public au risque de subir la rigueur de la loi. Butembo, Grâce Amuzati, Radio Kapi.
En Ituri, 2 personnes sont mortes asphyxiées samedi dans un carré minier à Pluto, environ 7 km de Mongualou, dans le territoire de Djougou. Le bourgmestre de cette commune rurale précise que 3 autres personnes s'en sont tirées avec des graves blessures après avoir été sauvées et réanimées. Jean Bikilisende demande aux exploitants miniers de veiller sur la sécurité de leur personnel. Le bourgmestre de Mongualou, joint par Charlie Omba.
Pendant qu'il y avait de la fumée, du moteur, ainsi de suite, 5 qui étaient touchés par l'asphyxie, puisqu'il n'y avait plus d'oxygène, on a réussi à les dégager à la surface. 3 personnes ont été réanimées, ils ont repris, et il y a eu 2 personnes qui en sont mortes. Ce que nous demandons à la population, c'est que, bien sûr, nous tous nous devons travailler pour gagner notre pain quotidien. Mais pendant que nous travaillons, surtout l'exploitation minière artisanale, nous entrons dans les puits profonds, nous devons pomper de l'eau avec des engins. Nous devons prendre des précautions. Quand le moteur est en train de tourner, ça bouffe l'oxygène de l'environnement en place. Donc nous devons faire attention. Chaque fois que nous travaillons, nous devons d'abord attendre qu'il y ait. Donc nous devons être regardants vis-à-vis de notre propre sécurité.
Province du Tanganyika, la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC à Kongolo, annonce la reprise des travaux de réhabilitation du pont route rail Lualaba, jeté sur le fleuve Congo. Nous sommes à 390 km au nord-ouest de Kalemie. Le directeur d'infrastructure et des experts de la SNCC sont arrivés sur place pour la supervision des travaux. Le pont Lualaba est un ouvrage qui permet de relier la province du Tanganyika à celle du Maniema par voie ferrée. Le coût n'est pas divulgué. François-Xavier Mibé, reporter.
C'est le stockage des matériaux de construction à l'entrepôt de l'office des routes par la SNCC qui rassure la reprise définitive des travaux. Une reprise qui intervient après un arrêt de 10 mois. Les travaux de réhabilitation entamés par l'office des routes ont été suspendus en mai 2020, faute de fonds. Le directeur d'infrastructure ferroviaire de la SNCC, Kachota Mutombo. Nous venons reprendre les travaux dans le cadre de la SNCC. Nous allons poser des planches comme il faut. Le passage va être bloqué de 8 à 16h30, voire 17h. Le travail ira vite. Le pont route rail Lualaba de Kongolo est un ouvrage qui relie le Tanganyika au Maniema. Il permet le transport des personnes et l'évacuation des marchandises des Kindu en passant par Kongolo, à Lubumbashi d'une part, et des Kindu à Kalemie d'autre part. L'administrateur de territoire assistant en charge de l'administration, Joseph Kiteba. Le directeur d'infrastructure ferroviaire confirme la fin des travaux dans un mois.
Gardons patience, c'est confirmé pour le moment.
Les experts sont déjà dans nos murs.
Ça commence d'un moment à l'autre.
Kalemie, François Djabemibé, Radio Kapi.
Parlons à présent des routes nationales numéro 2, 3 et 5 autour de la ville de Bukavu au sud Kivu. Dans un point de presse hier à Kinshasa, l'élu de Walungu a demandé au chef de l'État d'inclure dans son projet Chile-Djoulou la réhabilitation de ces routes d'interconnexion provinciale et régionale. Dans le cas contraire, prévient le député national Olive Mudekereza, les villes de Bukavu et Uvira seront en rupture d'approvisionnement en produits de première nécessité et le sud Kivu sera isolé d'autres provinces. Olive Mudekere Zaladi à Jean-Désiré Kanyama.
On a saisi le cabinet du chef de l'État pour la route RN5. C'est dans le cadre de l'urgence parce que la route est déjà coupée entre Uvira et Bukavu. C'est une route d'une grande importance. Et vous savez que la ville de Bukavu est au carrefour de ces trois routes nationales, la RN2, la RN3 et la RN5. Si ces routes sont coupées, la ville de Bukavu sera asphyxiée et il n'y aura plus d'interconnexion entre cette province et les autres pays voisins. Quand vous allez à Goma, au niveau de Nyabibwe, à 100 km de la ville de Bukavu, la route est presque coupée, là où on dit chez les Français. Quand vous parlez de la route RND pour aller vers Shabunda, à environ à 80 km, 70 km, c'est inaccessible. Donc, la ville de Bukavu est presque coupée de ce territoire. Ça a des conséquences énormes sur l'économie. Et nous demandons au chef de l'État de voir, d'examiner dans l'urgence la possibilité d'intégrer ces routes dans son projet de Chilenjulu. En réhabilitant, en construisant, pourquoi pas même asphalter la route Ngomo. Si on ne le fait pas, le site qui vous sera coupé des autres provinces et de ces territoires et de l'interconnexion régionale. Et vous savez, d'ici une année, 2 à 3 ans, nous entrons dans la zone libre d'échange.
Dans l'actualité aussi, l'arrestation depuis environ 5 jours du commandant de l'aéroport international de Bangoka, Leonard Muyaga Kizito, croupi dans la prison centrale de Kisangani, suite à une plainte déposée au parquet de grande instance par une délégation de la RVA Kinshasa. Cette dernière l'accuse de détournement des biens et autres dons légués par la MONUSCO à cette entreprise. Pendant ce temps, le conseil de Leonard Muyaga se bat pour obtenir sa liberté provisoire. Plus de détails avec Jacques Moukonkole.
Outre les dons et legs de la MONUSCO, la délégation de la RVA doit également enquêter sur la disparition d'autres matériels de la RVA hérités du projet prioritaire de la santé aérienne. Tous ceux qui seraient impliqués dans ce détournement doivent être poursuivis, avait indiqué Théo Ngala Mouloumé, chef de cette délégation, lorsqu'il est allé présenter ses civilités et l'objet de leur mission à l'autorité provinciale. Dans les milieux proches du commandant de l'aéroport international de Bangoka, l'on dénonce la précipitation avec laquelle un haut cadre de la RVA, de surcroît, représentant du directeur général peut être incarcéré à la prison comme si sa fuite était à craindre. D'ailleurs, estiment ses proches, sa responsabilité dans ce qui lui est reproché n'est pas encore établie par les instances judiciaires compétentes. Ils renchérissent que le dossier étant administratif, la délégation n'a qu'à établir un rapport à la hiérarchie. L'incriminé doit pour sa part donner les moyens de défense avant que la justice ne soit saisie pour établir ou non les griefs mis à sa charge. Pour le moment, le conseil de Léonard Muyanga Kizito, commandant de l'aéroport de Bangoka, sollicite la liberté provisoire de leur client en instance de prendre sa retraite après plus de 40 ans de services rendus dans cette entreprise. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Direction le Maniema, distribution gratuite de 1000 plantules dans 7 écoles de la ville de Kindu. Cette opération est lancée par la synergie Acte Vert. Parmi ces écoles, les instituts Djoudi et Saint-Charles, ainsi que l'école primaire Nyota, les premiers à être servis. L'objectif, selon le coordonnateur de cette synergie, est de protéger ces écoles contre les vents violents qui détruisent leurs toitures, mais aussi protéger l'environnement de la ville. L'ingénieur Hassan Emili Mojon explique dans ses propos recueillis par Florence Kizalou.
Nous nous trouvons auprès de notre pépinière en train de distribuer les arbres parce que nous avons des espèces d'arbres et nous avons les lesena, les cocéphala, nous avons acacia mangium que nous allons donner aux écoles afin que nos écoles aussi soient protégées parce que vous savez avec les intempéries, avec les ouragans, ça prenne les toitures de nos écoles. Alors nous ne pouvons pas seulement commencer à protéger la forêt alors qu'il y a des écoles aussi qui souffrent. Vous savez que nous sommes les protecteurs de l'environnement et acteurs de développement. Quand vous trouvez il y a un problème, vous devez savoir chercher une petite solution. Parce qu'on ne peut pas attendre une solution qui peut provenir d'ailleurs alors que vous-même vous êtes la solution d'un problème. Parce que ça ne demande pas un moyen exorbitant, ça demande seulement la technicité, le professionnalisme et le dévouement. On ne fait pas vendre cette pépinière ou ces arbres aux écoles, nous les donnons gratuitement. Et nous avions dit au chef des établissements que nous allons faire le suivi d'un mois pour bien fixer ces arbres afin que ça croisse de manière très ordonnée là et que ça crée des ombrages comme les enfants les connaissent, mais nous l'appelons climax. C'est ce que nous sommes en train de chercher.
Actualité Afrique Monde.
Les Béninois étaient appelés hier aux urnes pour le premier tour d'une élection présidentielle déjà contestée. Seuls 3 candidats étaient en lice, dont le président actuel Patrice Talon. De son côté, l'opposition a vu plusieurs de ses candidatures invalidées par la commission électorale. Le vote s'est déroulé dans le calme, notamment à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Présidentielle au Tchad, 7,3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier également pour départager 10 candidats, parmi lesquels l'actuel chef de l'État Idriss Déby, qui brigue un nouveau mandat de 6 ans. Dans la capitale comme en province, il n'y avait pas foule devant les bureaux de vote. Allemagne, qui pour succéder à Angela Merkel, à moins de 6 mois des élections, les partis allemands s'y mettent en ordre de marche, mais à droite, l'incertitude demeure. Les conservateurs doivent encore décider qui sera leur candidat dans la course à la chancellerie. Les deux présidents des partis de droite sont sur les rangs. La pression monte pour que la question soit tranchée. Les groupes parlementaires des deux partis se sont réunis hier en conclave avec la sortante Angela Merkel et les deux candidats potentiels. Notez que la chancelière allemande Angela Merkel quittera le pouvoir durant l'automne après 16 ans à la chancellerie.
L'invité.
Les cris de détresse lancés par la jeunesse et toutes les franges des populations dans l'est de la RDC ont été entendus par le gouvernement. Ce dernier annonce ainsi des actions concrètes pour éradiquer l'insécurité dans cette partie du pays. Déclaration du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde dénonce la propagation des images et informations des manipulations de la population par l'ennemi dans le but de déstabiliser et démoraliser les Congolais. Gilbert Kankonde, notre invité ce matin, répond aux questions de Jeff Ngo.
Monsieur le vice-premier ministre Gilbert Kankonde, bonjour.
Bonjour.
La situation sécuritaire n'est fait qu'empirer dans l'est de la RDC. Ça fait près d'une semaine qu'il y a des jeunes qui manifestent contre les organisations internationales, contre la MONUSCO, suite aux violences, aux atrocités, aux massacres auxquels on assiste. C'est devenu récurrent, des maisons qui sont incendiées, mais on n'entend pas une voix de la part des autorités compétentes que vous êtes, les autorités gouvernementales qui ont la charge de la sécurité intérieure, de la protection des personnes et de leurs biens. Qu'en pensez-vous?
Ce sont des cris qui sont légitimes et qui arrivent effectivement aux oreilles des autorités, lesquelles autorités, depuis l'investiture du président de la République dans ses fonctions, a fait de cette question une de ses priorités. et nous exprimons toute notre compassion par rapport à tous ces cris de détresse. Et je tiens à dire que les autorités ne sont pas restées insensibles. Par contre, chaque jour, ces questions reviennent dans les quotidiens, dans les solutions à apporter. Et ne vous en faites pas, l'autorité utilise les gros de petits moyens dont dispose la République pour trouver des solutions à cette situation qui n'a fait que trop durer. Vous savez qu'il y a eu toute une brigade qui a été formée et qui a été déployée, notamment dans les Grand Nord, à Bénin, et qui avait réussi à déloger les ADF dans tous leurs quartiers généraux, dans leurs centres d'entraînement, et ce qui augurait pour nous un avenir de paix, effectivement. Mais ce que je voudrais dire haut et fort ici, ce sont les messages qui sont véhiculés pour accompagner ces cris de détresse. Et dans cette guerre atypique, l'ennemi utilise tous les moyens à sa disposition sur tous les fronts. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sème la terreur, notamment en s'en prenant à des paisibles citoyens qui sont isolés, qui sont dans leurs champs, qui sont dans des villages. Dès qu'ils ont perpétré leurs actes criminels, eh bien, ils les filment eux-mêmes, ils les diffusent tout simplement pour choquer, pour inculquer, n'est-ce pas, ces images de terreur dans l'imaginaire, dans l'esprit de nos populations.
C'est parce que l'État apparemment n'existe pas là-bas. Il y a l'absence du gouvernement là-bas, l'absence de l'autorité de l'État.
Je ne veux pas revenir là-dessus, parce que en même temps, allez parcourir vous aussi les informations que vous avez eues à exploiter ces derniers temps. Vous découvrirez des images, des informations venant des forces armées congolaises sur des localités où les ADF s'étaient déjà établis et qui ont été repris et qui sont revenus, qui sont sécurisés par nos forces de défense et de sécurité. Mais les messages que véhiculent tous ceux qui se disent jeunes, société civile, c'est lesquels ? C'est de dire qu'on continue à nous tuer et que l'État ne fait rien. Tous ceux qui sont comme partenaires, MONUSCO, humanitaires, tout ça, leurs actions, c'est zéro. Et qu'est-ce qu'ils proposent comme alternative ?
Mais vous, qu'est-ce que vous posez comme alternative, monsieur le vice-président ?
Ces messages-là, il faut que nous puissions les analyser pour savoir si c'est cela l'alternative.
Cela fait plusieurs années que cette situation perdure dans l'Est du pays. Les gens crient toujours, ils demandent qu'il y ait la paix. Ils demandent qu'il y ait l'autorité de l'État dans l'Est. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour que cela cesse, pour qu'il y ait une paix durable ?
Je vous ai expliqué, non seulement qu'il y a eu des actions, des offensives militaires qui ont été menées et qui ont réussi à faire reculer cette présence des ennemis.
Donc l'ennemi recule, mais il retourne toujours.
Mais c'est normal.
Recule après, il retourne. Pourquoi ne pas l'écraser définitivement ?
Nous le faisons. Et là, déjà, c'est une réponse pour dire que rien n'est fait. Je vous démontre qu'il y a quelque chose qui est fait.
Parmi les actions pour éradiquer ces phénomènes d'insécurité dans l'Est du pays, pourriez-vous au moins nous citer quelques actions concrètes ?
Les actions concrètes, c'est d'abord le renforcement de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ce renforcement va porter sur les effectifs, leur formation, la logistique pour les doter de tous les matériels qu'il faut et qui peut leur permettre de faire face à l'ampleur, n'est-ce pas, de l'action de l'ennemi. Que ce soit du côté matériel, militaire, côté logistique en termes de mobilité, tout cela, c'est des programmes qui sont déjà mis en marche et les programmes de formation, parce qu'il y a bon nombre de jeunes, des recrutements se sont poursuivis au sein de nos forces armées et il y a des sessions qui arrivent déjà à terme. Avec des partenaires de la paix comme la MONUSCO, nous avons institué des concertations internes avec les responsables de la MONUSCO au niveau de la représentante spéciale, tout comme au niveau des représentations dans leurs bureaux en province et même sur le plan opérationnel. Nous voyons là où il y a des failles sur le plan organisationnel et là où il y a des failles en termes de collaboration, en termes de coordination opérationnelle, tout cela va nous permettre de renforcer notre dispositif et de répondre de manière plus efficiente que ce que nous avons connu jusqu'à.
Le responsable des confessions religieuses de la CENCO dénonce la présence de plusieurs militaires qui sont toujours là au terme des brassages, qui ne veulent pas être déplacés.
Il y a eu une permutation générale ici. On a changé les autorités à tous les niveaux, à l'état-major général, jusqu'au commandement dans les zones de défense.
Les évêques se trompent.
Je ne polémique pas là-dedans.
Je vous remercie.
Merci.
Voilà, c'était là notre invité, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Il répondait aux questions de Jeff Ngoy. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Julien Nyamweni, coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de nous avoir suivis.